J'ai une question à vous poser,
parce que j'aime les questions. Et j'espère que vous aimez les réponses. Première question est ceci. Quel est le verset dans la Bible qui est probablement le mieux connu dans ce monde? Est-ce que je vous dis ce que j'ai entendu? Voilà ce que j'ai entendu. Donc c'est difficile à comprendre. Jean 3,16. Alors, ensemble, qu'est-ce que ça dit? Très bien. La première phrase, c'est quoi? Non, ça c'est le premier mot. La première phrase. Car Dieu a tant aimé le monde. Figurez-vous que c'est pour cela que Dieu a créé le monde. Parce qu'il a tant aimé ce monde. Et nous venons de chanter un cantique qui dit, j'ai une mémoire très longue, comme ça, et j'oublie le nom de ce cantique, mais ça disait que nous allons jusqu'au bout avec Dieu dans les bons et les mauvais jours. Vous avez chanté ça? Plus fort, Brass. La voix du Seigneur m'appelle, et ça disait dans les bons et mauvais jours. Alors, j'aimerais bien que ça soit la vérité. Dans les bons jours, on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Mais ce sont dans les mauvais jours où nous avons le problème. Et si Dieu nous a tant aimés, qu'est-ce que Jésus dit? Parce que c'était Jésus qui nous a tant aimés. Parce que c'est lui-même qui disait que Dieu nous a tant aimés. Jésus disait ceci. Vous avez dit que ça se trouve dans Jean chapitre, verset 16. Alors, Jean chapitre 13, verset 34, nous dit ceci. Je vous donne un nouveau commandement, ou un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau? Aimez-vous les uns les autres. C'est tout? Il a ajouté une phrase après qui disait « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Est-ce que nous avons cette sorte d'amour, nous? Ça, c'est une question pour la réflexion, n'est-ce pas? Alors, l'amour, le vrai. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'amour, le vrai amour, est très mal compris. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles à 1 Corinthiens, chapitre 13. Il y a un tout petit passage là, qui est formidable, riche en bénédiction, riche en enseignement, riche en défi. 1 Corinthiens chapitre 13. On va lire simplement 13 versets là. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et je suis sûr et certain que Paul serait d'accord avec moi si je dis, cela ne vous sert à rien non plus. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne s'avante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Wow. J'ai envie de prendre un marqueur noir et barrer ça. Parce que c'est difficile. Mais c'est pour cela que c'est là-dedans. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Qui ici présent connaît le mot hébreu pour vérité? Amen. C'est ça le mot, amen. Donc, quand vous dites « Amen », qu'est-ce que ça veut dire? Vérité. Vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.
Ah, très bien, très bien. Alors, quelle est une des parties de la réputation des gens qui habitent la France? On est un pays de râleurs, un pays de râleurs. Alors, vous savez ce que cette attitude a engendré, une pessimisme si forte qu'une récente étude a conclu que la France est le pays le plus pessimiste du monde. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot pessimisme? Oui, quand on râle comme ça, ça fait partie. Mais c'est plus que ça. J'ai cherché dans les dictionnaires et ce que j'ai trouvé, c'est catastrophique. Le pessimisme est un dégoût pour le présent et une peur pour le futur. Vous voyez maintenant pourquoi les gens ici sont si râleurs. Vous savez ce que c'est une boussole. Mais eux, ils n'ont plus de boussole. Vous savez ce que c'est un point d'appui. Mais eux, ils n'ont plus ce point d'appui. Parce que récemment, j'ai lu les chiffres qui disaient que 98% des gens qui habitent le pays sont soit athées, soit ils disent que Dieu n'a aucune influence dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est vrai? Dieu, comment est-il au ciel? Comme ça? En disant, oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait pour ce pays et maintenant ils sont comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour ce monde et maintenant le monde est comme ça? Oui. Alors, Dieu nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Jésus, le Fils de Dieu, a pris ce verset et il a détourné un peu ce que ça dit, ou il a ajouté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De toute ta pensée. Et dans, j'oublie quel évangile maintenant, mais ce serait écrit dans un instant, Jésus, attends, oui, ici, ah oui, ça serait, ça viendrait un peu plus loin, j'ai une autre partie de ce que Jésus disait là. Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le prochain dans ce pays, c'est qui? Les frères et les sœurs en Christ? Oui. Mais est-ce que ça se limite à ça? Ou est-ce qu'il veut dire que vous haïssez vos ennemis? Vous faites du mal à ceux qui vous font du mal. Ou qu'est-ce qu'il a dit, lui? Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous font du mal. Et ceci n'est jamais facile. Pourquoi? Eh bien, chacun de nous a son propre caractère. C'est très distinctif, qui donne à chacun son individualité. Et combien de fois ma chère épouse est vexée avec moi parce que je ne suis pas facile à vivre. Mais Jésus a ajouté ce commandement parce que quand nous mettons ceci vraiment en pratique, ceci authentifie la Bible. Nous avons parlé avec un homme hier devant Auchan. J'oublie le nom du centre là. Gramont, quelque chose comme ça. Oui, oui. Je lui ai demandé des directions et cet homme, il m'a adressé la parole et il a dit, quel pays vous? J'ai dit, moi je suis d'origine européenne, mais je suis de nationalité américaine. Et vous? Il a dit, je suis russe. Et je lui ai parlé et je lui ai demandé s'il croyait en Dieu et il a dit, non, je suis athée. C'est prouvé par la science que l'homme est venu du singe. Mais récemment, sur Arte, ils avaient un documentaire mené par un gars, un scientifique, et à la fin, le scientifique disait ceci. Il a dit, c'est pas vrai, on n'est pas descendu des singes. Vous savez pourquoi? Non, il a dit, ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas descendus des singes, nous sommes encore des singes. Et j'ai dit à Beverly, oui, pour lui, c'est vrai, hein, mais c'est triste, hein. Tout ce que Dieu a fait pour nous, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a donné, et nos pauvres concitoyens sont toujours à ce stade-là. Ah là là. Mais j'ai une question à vous poser avant d'aller plus loin. Cette question semble un peu compliquée, mais quand vous réfléchissez, vous allez voir ce que ça veut dire. Croyez-vous réellement que ce que vous croyez est réellement réel? Croyez-vous réellement que la Bible est la parole de Dieu? Croyez-vous réellement que la Bible est la parole de Dieu?
Oui.
Ouh! C'est bon ça. Alors, pourquoi vous avez du mal à aimer vos voisins? Ceci semble, à première vue, un peu compliqué, mais le sens est ceci. Comme chrétiens, nous pensons que tout ce que la Bible dit est vrai. Et nous acceptons tout cela, mais dans la réalité, souvent notre culture entre en ligne de compte. Et nous agissons, non selon les principes bibliques, mais selon notre échelle de valeur. Et ceci est particulièrement vrai quand il s'agit de l'amour. Alors, quel est le dessein de Dieu en ce qui concerne l'amour? En effet, il y a un double but. But numéro un, c'est allumer son amour dans le cœur de l'homme pour que le cœur puisse aimer Dieu. Et deuxièmement, allumer dans le cœur de l'homme l'amour pour son prochain. Et quand je me fâche avec mon épouse et je partais en claquant la porte, est-ce que ça c'est l'amour? Mais non, c'est pas l'amour. L'amour n'agit pas comme ça. Pour que ceci fonctionne correctement, l'amour de Dieu doit être bien en évidence dans l'homme afin qu'il puisse aimer son prochain avec l'amour que Dieu lui a donné. Il y a plus que 100 ans, un commentateur biblique au 19e siècle, voilà comment lui, il a donné les définitions pour le mot amour. Numéro 1. Agir intensément, car l'amour est toujours actif et il va agir dans tous les sens possibles. Agir intensément, l'amour. Numéro 2. Être intensément satisfait, parce qu'il est complètement satisfait avec l'objet de son amour. Quand je ne suis pas satisfait avec quelque chose que mon épouse fait ou ce qu'elle pensait ou une façon d'agir, est-ce que je devrais être complètement satisfait avec elle? Eh oui. Eh oui. Pas nécessairement avec ce qu'elle fait, mais avec qui elle est. Et ça change tout. Embrasser passionnément l'objet de son amour. Oui, j'aime beaucoup faire ça, hein. Et numéro 4, on se repose avec admiration dans l'objet de son amour. Car le vrai amour ne change pas. Wow! Aimez vos ennemis. Est-ce qu'on peut appliquer ces définitions-là à notre ennemi? C'est ça ou c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Alors, le fruit de l'esprit, selon Paul, il a dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et moi, peut-être si tu n'es ici, mais ça fait rien, ne dit rien, ni à Vincent, ni à Samuel. Hein. J'aime... Oh, oh, son fils est là. J'aime donner cette application à ce verset-là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'évidence de l'amour dans la vie du chrétien, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et ce qui soutient tout ça, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Alors maintenant, nous allons voir quelque chose ici, parce que dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3, ça parle du travail de votre amour. Le travail de notre amour. Et le mot grec pour le mot amour veut dire action de travailler fort, de peiner, caractérisé par la difficulté et la fatigue. L'amour, tout ça, eh oui, eh oui. Pour travailler comme il faut tout ça. Hein? On a du pain sur la planche. Ou comme je disais il y a bien longtemps en arrière, Mon français n'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Et je disais, il y a du pain sur le plancher. Et les gens dans l'assistance disaient, John, c'est il y a du pain sur la planche. Je disais, oui, mais il y a tellement de pain sur la planche qu'il y a maintenant le pain sur le plancher. Et c'est vrai ça, hein? Il y a tellement à faire, nous avons tellement à faire pour l'amour, que le plancher est plein de pain aussi. Hein? Alors, Jésus nous cite, et ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et Marc a ajouté, de toute ta force. » Voyons maintenant la signification de ces trois mots, « cœur, âme, pensée et force ». Numéro un, de tout ton cœur. Rien n'est comparable à Dieu. Tu es prêt à faire tout pour lui, pour Dieu. Et si vous n'êtes pas prêt à lui faire tout pour lui, je vais vous dire que vous êtes menteur. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez chanté ce matin? Vous avez chanté « Je suis prêt à tout faire pour Jésus ». Alors, ne soyez pas un menteur, mais à céder tout pour lui, souffrir tout pour lui plaire en toutes choses, le glorifier à tout jamais, tout ça. Maintenant, de toute ta pensée, de toute ton âme, donc de toute ta vie, prêt à céder ta propre vie. Est-ce que moi je suis prêt à céder ma propre vie pour mon épouse? J'espère que lui, oui. Mais est-ce que je suis prêt à céder ma propre vie pour un de vous? Si je ne vous connais pas, j'espère que oui. J'espère que oui. Alors, tes propres désirs et projets, est-ce que je suis prêt à céder cela? Toutes tes possessions, le but, honorer Dieu, plus rien qui t'appartient. Tout est donné à Dieu. En suivant, de toute ta pensée, Dieu nous a renouvelé nos pensées, selon Romains 12:2. Par le renouvellement de l'intelligence, vous donnez tout à Dieu. Alors, le but, connaître Dieu et sa volonté. Pour cela, il faut connaître sa parole. Il faut avoir une attitude de soumission et plaisir dans la parole. Il faut faire tout pour savoir. Il faut garder tes pensées en Christ. Maintenant, de toute ta force, nous avons une autre chose. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de toute ta force. Fais tout à cause de l'Évangile. Fais tout pour la gloire de Dieu. N'épargne ni effort ni frais. Et par frais, c'est pas la chaleur contre la fraîcheur, hein, ni argent. N'épargne ni effort ni frais. Ton temps, ton corps, ta santé, tes possessions, tes talents, ta force, ton argent. Glorifie-le de toute ta force. Maintenant, revenons au deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, je vous pose une question. Et la question est la suivante. Quelle est votre réputation au sein de votre propre famille? Le savez-vous? Quelle est votre réputation au sein de votre famille? Moi, je ne sais pas, parce que la vaste majorité de ma famille, ce qui reste, il n'y a pas grand-chose qui reste, c'est en Amérique et au Mexique. Donc, je ne les vois pas très souvent. Mais, une question. Je vais utiliser la relation entre un couple, puisque Dieu a commencé l'humanité avec un couple. La sorte de relation que Dieu a créée entre lui et son Église est basée sur la relation entre époux et épouse. Alors, ceci veut dire que nous avons besoin de la nourriture quotidienne dont l'homme est la clé de cela. C'est lui le chef de la famille. Ce n'est pas l'épouse qui est le chef, la cheftaine. Elle est une aide précieuse. Et pour nous les hommes, n'oubliez pas ce que Dieu dit en Genèse chapitre 2, en ce qui concerne l'homme, il a dit, c'est pas bon pour l'homme de rester seul. Il a besoin de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire, Boaz? L'homme ne peut pas fonctionner seul. Il a besoin de quelqu'un. Et bien sûr, il y a les célibataires, donc ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas une épouse, que vous êtes perdu. Mais nous avons besoin les uns des autres. Les uns les autres. Alors, la lecture de la Bible, la prière, la communication, tout ça au niveau de l'Église. Mais quand il y a une rupture dans le couple, c'est comme une rupture dans l'Église. Nous avons une partie ici, une partie là. Alors, quels sont les résultats possibles? Eh bien, communication brisée, la colère, la douleur, la peur, l'absence de paix, la guerre froide, la violence verbale. Est-ce que nous avons ça au milieu de l'Église? Il y a certains qui disent non. J'étais dans les églises là, une fois où j'étais là-dedans. Il y avait une femme qui n'était pas contente avec ce qui a été décidé lors de l'Assemblée générale. Elle a quitté l'église en courant. Et une fois dans la rue, « Vous êtes une église de Satan !» Donc, imaginez la réputation de cette église à cause de ça. Violence verbale. Violence verbale. La violence physique. Heureusement, d'habitude dans l'église, on n'a pas ça. Mais la violence verbale, c'est... Ouh, ça c'est terrible. Les mensonges. Dans l'église, eh oui. Le mutisme. On refuse de parler. On ne peut pas régler un problème si on refuse de parler. La séparation. Et parfois, ça vient à un divorce. Un divorce dans l'église. Est-ce qu'on a les divorces dans les églises? On a une femme qui a commencé à aller dans notre église. Il y a quelqu'un qui utilisait peut-être... qu'est-ce que je peux utiliser dans ça? C'est pas la violence verbale, mais elle a dit quelque chose qui ne plaisait pas à cette jeune femme. Alors, au lieu d'aller voir la personne concernée, elle a permis l'installation de la communication brisée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, la séparation, et on n'est pas loin maintenant de du divorce pour cette jeune femme. Et c'est tragique. Et Beverly et moi, nous sommes en train d'essayer de récupérer cette pauvre femme. Bon, Boaz me dit que je dois terminer vers 3h30. Donc, je vous promets que je vais éteindre la lumière hein, quand je parle. Jusqu'à quand? Jusqu'à midi, c'est bon. On verra. Après, c'est pas bon. Ok. Mais communication, hein, il faut. Alors, on peut caractériser la vie d'une personne, et beaucoup de chrétiens comme ceci, hein. Le premier pas, tout va bien. Tout le monde est heureux. Dans l'église, c'est une nouvelle église et on aime tout le monde. Et tout le monde m'aime. Et donc, la bougie ça brille comme il faut. Mais, quand la vie devient routinière, on commence à négliger les essentiels. Et la vie commence à être un peu pas très jolie. Et nous avons tendance, quand nous regardons l'image dans le miroir, parce que c'est ça ce que c'est. La deuxième bougie, là, c'est dans le miroir. Alors, nous avons tendance à dire, je ne suis pas aussi moche que ça, donc voilà comment je me vois. comme ça. Et la vie routinière continue. Et au lieu d'essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation et pour arriver au stade numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Quel est le stade numéro 3? Parfaitement. La bougie s'éteint. Et vous savez, il y a combien d'églises ici à Toulouse qu'on peut dire évangéliques? Il y a combien d'églises où la lumière de Jésus-Christ s'est éteinte? Ce n'est plus là. Ah, c'est triste, hein? Quelle est la solution? Trois pas réciproques. Est-ce que vous avez une idée quand il y a un manque de communication ou quelque chose dans l'église entre frères et sœurs? Quelle est la première chose qu'on doit faire? Ah! J'aime beaucoup cette musique-là. Hein? Supportez-vous les uns les autres. Et n'oubliez pas, quand je dis que je dois soutenir mon épouse, eh bien, la pauvre, elle doit me soutenir aussi. Et je suis plus lourd qu'elle, parce que j'ai le privilège de dire n'importe quoi ici, mais elle est assise là et elle doit emmagasiner ça. Donc elle doit me supporter aussi. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre à l'autre, que cet autre se pardonne ou s'excuse. Pardonnez-vous réciproquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression « je m'excuse » ? Soyons honnêtes maintenant. Combien ici présents utilisent cette expression « je m'excuse » ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire « je m'excuse » ? Ah, les gens qui l'utilisent veulent dire, oh, ça veut dire, pardonnez-moi. Mais analysez cette expression. Je m'excuse. C'est moi qui m'excuse. Et, franchement, voilà ce qui se passe. C'est pas votre cas, j'espère. Mais voilà ce qui se passe souvent. Je me moque de vous. Je m'excuse moi-même. Donc c'est pour cela que cette expression, en venant d'un Américain qui habitait en France depuis 65, j'ai lu dans les livres que cette expression n'est même pas française. Je m'excuse. Qu'est-ce qu'on doit dire? Pardonnez-moi. Je vous demande pardon. Quelque chose comme ça. Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. OK? Donc ça, c'est bon. Premier pas, le pardon. Deuxième pas, l'amour. Colossiens 3, 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit à la vérité. Amen. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc. Comment? Alors, disent ardemment, voilà. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Alors, qu'est-ce que cela implique, cette dernière phrase, d'un cœur pur? Cela implique que moi, pour aimer comme ça, je dois aller devant Dieu. Je dois lui demander pardon de tout ce que j'ai fait pour provoquer cette rupture, parce que n'oubliez pas, ça disait que supportez-vous réciproquement. Et je dois demander au Seigneur de purifier mon cœur, d'enlever toute rancune, même si ce n'est pas ma faute. J'ai eu une petite partie de la responsabilité quand même, ou bien une grande partie de cela. Comment est-ce que je suis sûr et certain que moi, j'ai une petite partie là-dedans de ce conflit? Parce que il a dit, pardonnez-vous réciproquement. Ah là là. Et maintenant, nous avons la partie la plus difficile, le travail. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et ça me donne toutes sortes d'encouragement quand je pense à ça. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et ce verset n'est pas habituellement utilisé dans un contexte de dispute, mais une partie de l'œuvre du Seigneur est de vérifier le bon fonctionnement de l'Église. Et s'il y a de la discordance, tout le monde doit travailler pour la bonne santé de l'Assemblée. Et pour illustrer cela, une bonne pomme laissée seule, qu'est-ce qui arrive? Ne survivra pas. Et ce serait comme ça. Vous aimeriez bien fabriquer de la compote avec ça? À donner à votre voisin, peut-être, avec tout l'amour que vous avez pour lui. Alors, comme Jésus disait en utilisant le fruit de la vigne, aussi bien longtemps que la pomme reste attachée à l'arbre, donc sa source de vie, elle reste saine. Mais il y a jusqu'à un certain point, parce que aussi si ça reste trop longtemps, ça commence à pourrir aussi. Mais il y a toujours des exceptions dans les illustrations. Mais quand cette pomme tombe par terre, qu'est-ce qu'on a? Même si vous voyez certaines pommes qui sont bonnes là, si vous les laissez, quel sera le résultat? Tout sera pourri, complètement pourri. Alors, quand nos relations dans l'Église se pourrissent comme ça, et parfois ça arrive, ça empoisonne la relation entre moi et vous, ou vous et quelqu'un d'autre. Mais n'oubliez jamais que quand vous avez les relations horizontales pourries, votre relation avec Dieu n'est pas saine non plus. Vous avez toujours ça. Alors, de nouveau, Paul disait, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, tout ça revient à cette petite chose qu'on appelle l'amour. Mais n'oubliez pas que même si ce n'est pas facile, ce n'est pas une option, c'est quoi? C'est un ordre. Nous n'avons pas le droit de dire, cette fois, on peut laisser passer ça. Mais non, c'est un ordre. Alors, souvent, nous avons tendance à nous défausser de toute responsabilité et de remettre tout sur le dos de l'autre. Et vous connaissez cette histoire dans Jean chapitre 8, où Jésus était en train, comme ce bonhomme-là, d'écrire sur la sable. Les spécialistes de la loi hébraïque lui ont tendu un piège afin de l'accuser faussement à Jésus. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Ensuite, il leur a dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Mais quand il se levait, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne parmi nous qui est sans faute. Et il savait bien que lui, c'était un piège qu'ils ont dressé pour lui. Alors, ils sont partis. Et c'est pour cette raison que Paul disait, « Pardonnez-vous réciproquement. » Alors, pourquoi je vous dis tout cela? Comme je vous ai déjà dit, Dieu utilise la relation matrimoniale afin de nous montrer sa relation avec nous. Donc, si vous êtes marié ou non, tout ce que je vous ai dit vous concerne quand même. Alors, quel est le remède? La réponse à cette question n'est pas facile, mais je vous donne quelques suggestions. D'abord, c'est une question de communication. Et je vous suggère de trouver un lieu calme, si vous pouvez, si ça existe ici à... Est-ce que ça existe, un lieu calme ici à Toulouse? Allez chez Vincent Boel et vous allez de temps en temps trouver un lieu calme. Mais sinon, le calme, c'est à l'intérieur. Et voilà. Je vous donne quatre mots ou quatre phrases à dire à votre soi-disant adversaire. Premièrement, vous dites ceci. Je t'aime. Deuxièmement, je t'apprécie. Oui, mais ce bonhomme-là, il est bon à rien, lui, hein? Bon à rien. Alors, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ces bons à rien qui croient en lui aient la vie éternelle. Et moi, avant d'être sauvé, je me suis considéré comme un bon à rien. Alors, je t'apprécie. Ensuite, j'ai besoin de toi. Un défi pour les maris et les femmes qui sont ici. Quelle est la dernière fois que vous avez dit ces trois phrases à votre conjoint? Ou les autres membres de l'Assemblée, quelle est la dernière fois que vous avez dit ça les uns aux autres? Surtout, le numéro 4, tu as de la valeur à mes yeux. Vous vous souvenez de ce passage dans Ésaïe chapitre 43 où Dieu était en train de parler à Israël et à Jacob et il a dit, vous avez de la valeur à mes yeux. Vous êtes précieux. Souvenez-vous de tout ce qu'ils ont fait avec Dieu. C'était quelque chose, hein. Et n'oubliez pas non plus ceci, la vie est difficile. Surtout en France, nous vivons dans un climat religieux qui est extrêmement froid. Alors, le chemin est trop long, trop étroit et trop dangereux à faire ça seul. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, c'est pour ça le titre, l'amour, le vrai. J'espère que ce que nous avons vu sera utile pour vous. Même si le chemin semble long et hasardeux, Dieu nous a promis sa présence tout au long du voyage. Et, pour terminer, n'oubliez jamais ceci, bien au-delà des montagnes, et vous avez, pas loin d'ici, les Pyrénées, qui sont jolies, mais bien au-delà de ces montagnes, Dieu prépare une place digne de la famille du roi des rois. Et, une petite chose pour terminer, une petite chose humoristique. Dites-moi, combien de temps Dieu a pris pour créer cet univers? Combien de temps?
6 jours.
Ah, 6 jours. Et cet univers est immense, énorme. On ne voit, on ne sait pas quelle est l'immensité de cet univers. Alors, Jésus disait à ses disciples, juste avant d'être crucifié, « J'irai au ciel, je vais préparer une place pour vous. » Et lorsque la place est prête, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens vous chercher. Alors, ça fait 2000 ans depuis qu'il est là, en train de préparer cette place. Dans 6 jours, il a créé un univers magnifique. Alors, dans 2000 ans, qu'est-ce qui nous attend au ciel? Waouh! C'est magnifique. Alors, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Et merci. Prions Dieu. Seigneur, merci pour le fait que toi tu vas venir et aide-nous à être prêts pour cela. Et que tu sois notre maître, notre guide ici-bas pour que nous puissions vivre en harmonie avec nos semblables, surtout dans l'Église, et que notre amour soit évident de tout le monde. En ton nom précieux, nous te prions. Amen.